C'est fort.
Hé, la vigie, vois-tu ce point lumineux sur le rivage? C'est le feu de camp d'Allô la planète. Mettez la chaloupe à la mer. Allons-y. L'émission est présentée par Quentin et Sophie de Fréquence 7.
Bonjour, voyageuses, pirates, aventuriers et aussi sédentaires. Bienvenue autour du Feu de Camp, le plateau radio du festival Joyeuse Escale 2023, co-animé par Allô la Planète et Fréquence 7. Bonjour Hélène, animatrice de Allô la Planète.
Bonjour Sophie, animatrice de Fréquence 7.
Alors ce soir au programme...
Eh bien, qu'est-ce qu'on a ce soir au programme? Un plateau poétique, mais aussi scientifique, pédagogique, sans oublier un peu de musique et la sonothèque que je vous ai déjà proposée hier.
Et puis, pour couronner le tout, une petite incursion avec une appli pour muscler vos mollets avec Via Epona. Ça, ce sera en toute fin d'émission. On commence... Alors ça, c'est les joies de l'aventure et du voyage. On devait commencer avec une aventure poétique et finalement, la poésie, c'est toujours inattendu. Donc,
moi, c'est ce que j'attendais en première partie, mais on change de cap puisque pour être bien dans la joyeuse escale, en effet, on commence d'abord par une rencontre pour la présentation d'un film Cap Fantastique puisqu'à côté de nous est présente.
Solène Desbois.
Voilà.
Bonjour Solène.
Bonjour.
Alors Solène, vous présentez ici à Joyeuse Escale un film qui s'appelle donc Cap Fantastique, qui est une aventure à la fois scientifique, pédagogique, humaine, qui amène 14 adolescents de 11 à 14 ans en Islande. L'origine du projet, qu'est-ce que c'est ?
L'origine du projet, donc moi j'ai suivi l'aventure avec le film, avec ces thématiques qui m'intéressent de mêler éducation, environnement. Le projet il est né il y a, en 2018-2019, vraiment d'un constat des enseignants, je parle un peu en leur nom, qui faisaient face à des élèves qui n'avaient pas forcément des connaissances scientifiques ou même... général sur le climat, sur ce qui se passe sur notre planète. Donc il y a eu cette première volonté de faire intervenir des scientifiques donc, du climat, donc des glaciologues, des biologistes, des océanographes. Et petit à petit est née l'idée d'aller constater aussi sur place ce qui se passait. Une des régions les plus impactées, c'est l'Arctique. Et il y a eu cette idée folle donc, d'aller en premier temps au Groenland. Finalement, ça ne s'est pas fait avec le Covid, etc. Donc, l'aventure se déroule en Islande, mais dans une nature qui est bien extrême et avec plein de choses à observer sur place. Et on était vraiment au cœur de cette nature islandaise pendant 12 jours, donc avec ces 14 jeunes.
C'est un projet de grande envergure et puis d'ailleurs je pense que à la base du projet était également l'idée de faire le film hein, pour garder une trace. C'était déjà prévu. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, donc c'est, il y a 14 jeunes, ils ne sont pas tous issus du même établissement. Il y a plusieurs collèges derrière, de l'Île-de-France, de Normandie, de Drôme, plusieurs établissements en France. C'était la grande première, la première fois que qui a été mené ce projet-là, donc il y avait l'idée de laisser une trace. Moi, je suis arrivée dans ce projet avant de partir en Islande, juste avant le départ, et l'idée de faire un film, c'était de témoigner de cette aventure. Les 14 jeunes, eux, ils ont un rôle d'ambassadeur après pour en témoigner dans leur école, et il y avait... cette idée avec le film de pouvoir aussi deviner ce qu'on plaît et puis après que d'autres enseignants et établissements s'en emparent.
Ils s'en emparent. Et j'imagine que c'est quelque chose qui tient à cœur de le sujet en lui-même de choisir cette problématique-là.
Oui, c'est vraiment des questions qui forgent aussi mon chemin en tant que réalisatrice, où je suis voyageuse aussi à la base, et à force de voyager aussi cette planète, comment on en parle, comment on en parle aux jeunes et qu'est-ce qu'on fait tout ça. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont assez fortes dans mon film et dans mes prochains films. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont très
importantes. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en visionnant le film, c'est l'importance de l'expérience, à la fois la distinction entre l'expérience et l'information. C'est très éclairant parce qu'au début du film, il y a une des protagonistes, une des élèves, des jeunes qui dit « Ouais, moi, le changement climatique, le dérèglement climatique, oui, c'est important, mais bon, je vois pas trop encore. » Et tout l'enjeu du film, c'est de les amener là-bas pour qu'ils en fassent l'expérience et qui, effectivement, les transforme. C'est le cœur même du voyage. Ils sont transformés par cette expérience. Et ensuite, évidemment, elle va pouvoir changer son attitude, elle va pouvoir en parler autour d'elle. J'ai toujours cette question, c'est... Est-ce qu'il faut nécessairement en passer par l'expérience, puisque elle-même dit que l'information n'est pas suffisante? Alors quoi? Ces ambassadeurs vont venir parler, ils vont diffuser l'information. Et c'est une question peut-être qui reste sans réponse, mais en tout cas qui m'a taraudée pendant tout le film, c'est est-ce que l'information est suffisante ou est-ce qu'il faut que chacun fassions l'expérience d'une certaine manière du dérèglement climatique pour en avoir conscience et agir.
Question difficile, c'est dur de donner une réponse générale à ça et on ne sait pas trop au final qu'est-ce qui nous pousse même individuellement déjà à prendre conscience et après à agir. Et après, c'est dur de généraliser, même dans l'information. Il y en a qui vont être touchés par des données scientifiques, de savoir d'avoir besoin de pourcentages, de gros chiffres, etc. Moi, personnellement, ça va plus être sur l'émotion, justement. Et il y en a qui vont avoir besoin d'aller sur place, d'autres non. Donc, c'est difficile de répondre à ça. En tout cas, je pense que... Au-delà de voir des glaciers qui fondent, etc., pour moi, l'expérience d'être en nature, elle est quand même indispensable. Donc, je fais aussi pareil mon travail, tout ce qui est pédagogie par la nature, remettre les enfants dehors au plus jeune âge. Moi, je me dis, ça, c'est important, au-delà d'aller forcément en Islande, au Groenland, en Antarctique, etc. Ça, pour moi, c'est quand même un point qui est important. Et je pense, après les études montrent les bienfaits après de là à faire des liens directs entre cette expérience-là et après une action de protection, etc. Mais je pense quand même
que ça favorise. Il y a un lien, une complicité qui se noue entre. Il y a une complicité qui se noue entre, la nature, en tout cas les autres espèces vivantes et soi-même.
Il y a quand même ça où on voit dans le regard. Il y a les phrases de ouais, on l'a vu en vrai de vrai, etc. qui marquent et pareil, ils sont pas tous touchés par la même chose. Quand on leur demande à la fin, c'est quoi qui t'a marqué? Il y en a, c'est la rencontre avec la baleine, d'autres c'est l'éruption, d'autres c'est le glacier. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à un moment donné avec un élément naturel. Et après, est-ce qu'on a besoin d'avoir une mission on peut le vivre aussi.
Il y a effectivement une parole d'une jeune qui est là, qui est, je trouve, très intéressante, qui dit « Je me mettais à la place des cétacés ». C'est-à-dire, c'est un moment où vous écoutez, ils écoutent dans la mer et ils se rendent compte qu'il y a un bateau qui passe à 1 kilomètre et qu'ils entendent. Et elle se dit, je me mettais à la place des cétacés. Et même à 1 kilomètre, on l'entend, mais ça serait insupportable pour moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire cette, voilà, elle s'est mise à la place et donc il y a effectivement un phénomène de compréhension probablement.
C'est ça, c'est quand même d'être sur place. Donc elle est en train, on vient de plonger l'hydrophone dans l'eau et là on a l'impression qu'on est seul dans la baie et en fait on entend des hélices tourner. Donc il y a ouais, ces moments-là d'expérience qui sont quand même nécessaires à la compréhension de ce qui se passe. L'autre phrase aussi qui est assez marquante, c'est hein, aussi quand on parle des océans, qui réalisent qu'on les étudie pas bien, etc. Et là, bah, à ce moment-là, il est quand même sur un voilier avec un scientifique. Il vient lui-même de récolter du plancton, qui vient d'analyser au microscope et se rendre compte de tout ce qu'il y a dans les océans. Donc, c'est quand même mêlé expérience et connaissance.
Justement, la force de ce film, c'est aussi d'avoir su capter les paroles des jeunes, de les mêler et puis de sentir vraiment très proche des images de nature, mais aussi des ressentis des jeunes. Alors, comment tu t'y es prise en tant que réalisatrice? Parce que quand même, il y a tout un travail de choix, de sélection, et qui implique un regard que tu portes sur le sujet qui est très fort et aussi finalement très engagé.
Oui, alors c'était pas évident parce que, bah, comme je vous disais, ils venaient d'un peu partout en France et que moi je suis arrivée sur le projet un peu à la fin. Donc j'ai justement malheureusement pas eu tout ce temps-là avec eux, mais on arrive et on vit quand même l'aventure avec. Et bah, le fait que ce soit des enfants et ils se sont hyper vite habitués à la caméra, donc après. Moi, c'est vraiment l'idée d'être proche, quoi. Donc, bah, la proximité du voilier fait que, mais aussi, même quand on était dans des environnements plus grands, j'étais quand même assez proche d'eux. Et bah, ils sont hyper spontanés. Et après, ils m'ont bluffé. Ça faisait un moment que je n'avais pas repassé du temps avec des jeunes de cet âge-là. Et ça m'a vraiment aussi reconnecté avec des collégiens et de me dire on peut aussi leur faire comprendre tout ça à cet âge-là, avec tout le travail de sensibilisation qu'il y a eu. Ils avaient rencontré des scientifiques avant, etc. Donc ils avaient déjà de la matière à réflexion. Mais quand même, je ne pensais pas que des jeunes de 12, 13, 14 ans pouvaient capter autant de choses. Donc j'étais moi-même la première surprise dans ce qu'ils pouvaient balancer comme phrase, comme ça. Et puis voilà, après nous, c'est notre rôle d'être là. On était deux à faire le film, donc c'est notre rôle d'être là pour capter ces moments-là. Mais on a eu de la chance dans les jeunes qui sont là.
Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment l'attitude des enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient en recherche, on sent très fort leur enthousiasme, leurs interrogations, c'est ça que vous avez réussi à capter, je trouve. C'est une attitude où on voit que c'est très concret pour eux et qu'ils se mettent vraiment dans la peau du scientifique. C'est là qu'a tout le sens du projet.
Et ça, pour le coup, c'est les enseignants qui, dans leur pédagogie, Nicolas qui porte le projet, vraiment, lui, c'était vraiment son idée, quoi. C'était remettre les jeunes comme acteurs et pas être... Bon, il y a eu ça, hein, évidemment, le scientifique qui explique comment ça marche, un glacier, etc. Mais que ce soit un moment, eux aussi, qui soient acteurs dans la recherche de données, quoi.
Dans la démarche scientifique. C'est vraiment ça, c'est que eux-mêmes... et cette posture de démarche scientifique et qui est très très éclairante dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire faire attention aux statistiques. On le voit à un moment donné, donc il y a différents moments. On voit certains qui font de l'océanographie, d'autres qui vont voir les glaciers, d'autres de la biologie, et enfin ils font de l'anthropologie, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est-à-dire que on voit tout ça. L'homme fait partie de la nature. Il est aussi sujet d'enquête. Ils vont enquêter pour savoir, pour connaître le ressenti des Islandais. Leur a priori, est-ce que d'après vous, c'est les questions, est-ce que d'après vous, est-ce que vous avez ressenti un changement climatique, etc. Là, très étonnant. En tout cas, c'est ce que vous nous donnez à voir. Très étonnant. Bah, il y a un relativisme. Il y a même une négation pour certains. Mmh. Et donc les élèves sont aussi confrontés à ça jusqu'au bout de leur démarche scientifique. Ils mettent en place des choses, mais statistiquement, finalement, il y a quand même 5 personnes sur 8 il y a quand même 5 personnes sur 8 qui déclarent effectivement être témoins de changements climatiques. Je parle beaucoup, mais ça m'a beaucoup intéressé cette notion de démarche scientifique qui est très intéressante pour les jeunes. Se réapproprier, prendre de la distance. Il y a un ressenti, mais que nous disent les chiffres avec de la distance? Les chiffres ne sont pas tous à jeter. Ça permet justement de mettre de la distance. Et donc, parce que là, Hélène, tu as la double casquette. Tu es femme de radio, mais tu es aussi enseignante, prof. Et comment, justement, cette expérience, toi, comment tu l'as vécu, ce film?
Oui, ben moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, ça répond vraiment au défi actuel de l'enseignement, de rendre beaucoup plus concret les choses, d'ouvrir les salles de classe, de fonctionner par pédagogie de projet, et donc voir que ça peut être effectif, c'est très inspirant, et en même temps ça pose plein de questions encore davantage, parce qu'on se demande bien comment l'initiative qui semble singulière et incroyable pourrait se généraliser. Donc c'est vraiment à la fois enthousiasmant, en même temps questionnant, peut-être aussi angoissant, puisqu'on se demande comment en arriver là. Je crois que oui, c'est très très stimulant en tout cas.
Et Solène, pour terminer, là on arrive à la fin de cet entretien. Pour terminer, vous avez d'autres projets qui vous emmènent où?
Oui, bah comme tu viens de dire, ce film il ouvre aussi plein de questions et je reste toujours dans ces questionnements de l'éducation, le climat, etc. Notamment comment on fait un projet sur le plus long terme et comment on le rend aussi plus accessible, parce que c'est sûr que je comprends qu'il y ait des gens sociaux qui peuvent se dire bah, j'ai pas forcément envie d'emmener, de faire un projet aussi loin, c'est vrai qu'en termes de logistique et tout c'était assez lourd. Et là, le prochain film, c'est sur une classe de La Rochelle où ils ont mis en place une option écologie, climat. Enfin, en tout cas, il y a 2 heures dédiées par semaine. C'est une option qui s'appelle Demain, c'est nous. Et donc, il y a cette continuité où on donne des connaissances aux élèves pendant l'année. Et après, en fin d'année, il y a quand même cette idée d'expédition, sauf que cette fois-ci, c'est dans les Alpes, donc plus proche de chez nous, donc un petit peu moins compliqué en termes de logistique, mais tout aussi impactant pour moi d'aller en mer de glace. On y était début avril, il y a la pancarte de 2015, on descend encore des dizaines de marches, donc il y a quand même des prises de conscience à prendre près de chez nous. Et il y a plein de choses à faire en France aussi, et là c'est avec des lycéens, donc avec un niveau de réflexion un peu plus poussé, et puis ils sont plus dans l'action aussi de leur âge.
Mais effectivement, pour terminer, c'est vrai que cette idée de la proximité est très intéressante. D'ailleurs, votre film était projeté avec Home Sweet Home, qui interroge cette notion de proximité. Y a-t-il besoin d'aller au bout du monde pour voyager et pour se rendre compte des choses? Non, il y a beaucoup de choses aussi à faire ici.
Merci beaucoup,
Solène Desbois. On rappelle votre film Cap Fantastique. Et c'était vraiment une aventure fantastique. Merci.
Merci.
On continue. Et Hélène, tu es allée grappiller quelques moments
du festival. J'ai été à la rencontre des festivaliers qui étaient très intéressants. Et donc aujourd'hui, on a 2 témoignages. Vous allez les entendre, c'est maintenant.
La sonothèque de la Joyeuse Escale avec Hélène Courtel. Jeudi 18,
et c'est parti.
Vendredi 19, samedi 20 mai, Allez la planète et Fréquence 7 vous invite à partager les aventures des festivaliers.
Allez la planète, deuxième jour du festival et deuxième numéro de la Sonothèque. Je suis avec Émilie, qui a 9 ans et son papa.
Bonjour. À plus tard.
Bonjour.
Bienvenue sur la Sonothèque.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent dans ce festival?
En fait, on est arrivé hier, il n'était pas très très beau, donc on est arrivé sur le festival et on a été faire les petits stands et on a passé beaucoup de temps au premier stand en fait, où Dozone proposait une application pour le vélo de voyage. J'ai voulu télécharger, il n'y avait pas trop de réseau. Et la journée est passée assez vite. On a fait un petit tour des stands pour discuter avec les auteurs de livres ou de voyages. Donc comme moi, voilà, j'ai quand même beaucoup voyagé, les discussions ont tardé. Mais on a aussi allé voir une projection du film Les Bébés des Cimes et Saint-Jacques-de-Compostelle.
Vous disiez que ça faisait écho à votre expérience de voyage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Mais en fait, je sais pas, ça m'a marqué parce que j'ai eu vraiment une fraîcheur, ça pétillait dans leurs yeux et c'était vraiment une force, une envie de voyager, une puissance. Ça m'a rappelé quand je suis parti avec ma fille, elle avait 2 ans et demi, et je suis parti en vélo et j'étais tout seul avec elle. Et se retrouver tout seul avec un enfant en bas âge, se retrouver dans la tente quand il fait froid, changer la couche, aller au WC, parce qu'elle nous accompagne quand on va aux toilettes ou quoi qu'on fasse. Et avec les doudous, la perte de la tête sur la route, enfin, c'est vraiment, ça m'a rappelé vraiment mon voyage que j'ai fait.
Et toi alors, Amy, qu'est-ce que tu peux dire de ces journées?
Mignonnerie. Écoute, mignonnerie là.
Bonjour. Bah moi j'ai bien aimé.
Trop mignonne.
Parce que j'aime un petit peu les voyages.
Alors vous êtes d'Aubenas, vous me disiez. Comment vous avez connu le festival Joyeux Escale?
En fait sur une affiche, j'ai regardé ce qu'il y avait à faire dans les environs. Ça c'était vraiment 2 semaines avant.
Comme quoi, merci à la com.
Oui, bonne com et de la chance d'être venu ici là. Pas toujours évident de trouver le temps pour le faire.
J'imagine que ça vous permet aussi de rencontrer d'autres voyageurs. Vous qui êtes avis de voyage, ça opère une certaine sélection de personnes également intéressées.
Oui, carrément. Surtout comme je suis venu avec ma fille, ça me soulève des souvenirs, des émotions.
Carrément.
Je le ressens vraiment. Les gens, quand je parle avec eux, je vois très bien ce qu'ils ont vécu. Et le fait que certains ont réussi à écrire des livres, à exprimer leur voyage, moi, ce que j'ai pas pu faire.
Pas encore. C'est maintenant avec Jean-Rémy, qui a voyagé pendant une dizaine d'années et qui a découvert le festival par l'intermédiaire d'une amie. Donc, je suis allée à sa rencontre. Plutôt, c'est lui qui est venu à ma rencontre parce qu'il a beaucoup à dire sur le voyage. Et donc, pour l'heure, pour la Sonothèque, il va nous raconter ce qu'il pense du festival et puis pourquoi il est là.
C'est une amie en fait qui m'a dit qu'il y avait ce festival là, donc à Joyeuse, que je ne connaissais pas. Et vu que j'habite pas loin de Joyeuse, et en plus ça m'a tout de suite interpellé par rapport au voyage.
En 2 minutes.
Puisque bon voilà, j'en étais pas mal. Et j'ai voyagé assez longtemps. Mmh. Et donc du coup, ça m'a tout de suite interpellé. Et donc je suis arrivé donc hier, donc jeudi. J'ai découvert en fait des petits stands sympas où les gens représentent un petit peu leurs activités, comme celle qui fait des photographies anciennes. Une association entre Alpes et Himalaya là, qui part chaque année en Himalaya.
Et pourquoi ça t'intéresse
ça m'a interpellé tout de suite dans le sens.
Je sais pas,
j'ai voyagé donc.
Et moi je suis un peu comme toi là. Vous avez chaud, moi j'ai froid.
Arrêtez. Le festival lui-même, j'ai un petit peu le tour des stands et ce qui m'a en fait beaucoup plu et que je pense y retourner tout à l'heure, si vous qu'on n'entend pas encore.
Ça va être plus un dialogue. Moi j'ai pas trop préparé de questions. Ok.
C'est bien d'ailleurs. Et j'adore les percussions africaines. Moi-même, un peu lyonnais, percussionniste, je joue du djembé. J'adore ça. Et donc, du coup, j'espère qu'il sera là tout à l'heure. Parce que c'est vraiment hier, on a joué pendant plusieurs heures. Et à chaque fois, les gens qui passent, qui s'arrêtent, qui applaudissent, qui jouent eux-mêmes. Donc,
20 secondes avant l'antenne.
C'était la Sonothèque de la Joyeuse Escale 2023. une rencontre avec le public du festival.
Du coup, je commence la première question.
Moi, et après.
6, 5, 4, 3, 2, 1, antenne.
Alors, on avait promis un plateau poétique et en effet, Jean-Pierre Brouillot est arrivé. Il est à côté de nous.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Sophie. Bonjour Hélène.
Alors Jean-Pierre, moi, j'ai envie de, plutôt que de vous présenter, de savoir comment... Alors je vais alterner entre le vous et le tu, hein, mais mm-hmm. On est multiples.
Vous avez les aveugles, mais vous ne voyez pas. Hein.
Joli. Ça commence.
Justement, alors, vous avez donné un premier indice, ben, une des facettes, les aveugles ne vous voient pas. Qui es-tu ? Qui êtes-vous ? Comment aujourd'hui, après quelques décennies de vie et de voyage, comment vous aimez vous présenter ? Si je dis qui es-tu ou qui êtes-vous ?
Un espace qui accueille une mobilette pour le moment qui passe à côté.
Ouais.
Un espace qui accueille d'autres voix. Inspirant. D'ailleurs, c'est très étonnant quand on a un casque sur les oreilles. Je ne sais pas où vous êtes situé. Alors, même si je ne vois pas, même si j'ai des faux yeux, j'aime bien regarder les gens. Et là, du fait que j'ai le casque, je ne sais absolument pas où vous trouvez. Et j'ai l'impression.
Que je murmure à, qu'on murmure à l'oreille.
Pas du tout, mais non ça me trouble un peu parce que j'aime bien regarder les gens. Ah. Vous êtes en face de moi ?
Juste en face. Moi, oui, juste en face. Et Hélène, à votre gauche.
Voilà. Bon, ben, ça me convient, ça me fait du bien de savoir. Donc voilà, je suis un espace humain, vibrant, qui essaye d'être le plus présent à l'attention, ouverte. Donc j'ai passé beaucoup de temps à nettoyer cette attention, de toutes les scories émotionnelles et autres. Et ainsi, ça me permet de ressentir le monde plutôt à l'intérieur de moi, quand tout va bien, qu'à l'extérieur. Et ça me permet de transformer ce ressenti en parole et en écriture, parce que, comme vous l'avez dit, je suis auteur aussi. Après, si je sors une carte d'identité, j'ai 67 ans, je suis un gentil et je suis connu comme écrivain voyageur.
En effet, tu es auteur et... sur le festival pour présenter ton dernier livre, Géographie, mon amour. Un livre qui a été écrit, composé et que tu utilises désormais, enfin utiliser c'est sans doute pas le verbe adapté, mais que tu rends visible, transforme en déclamation. Enfin, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu présentes lors de ce festival ?
Alors, lors de ce festival, Flo et Steph m'ont proposé de faire des déambulations poétiques, ce qui fait que quelques fois, je crois cinq, avant la projection des films, et notamment deux fois de mon dernier, qui se passe en Colombie, Zigonechi, je lis pendant à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure des textes extraits de Géographie mon amour. Mais ce livre qui vient de sortir, qui pour le moment est auto-édité, contrairement à mes autres livres, qui sont édités dans les maisons une véritable maison d'édition. Pour le moment, il est auto-édité, mais normalement, il devrait sortir dans les mains d'une édition dans les temps à venir. Enfin, l'idée, pourquoi je l'ai auto-édité ? Parce que je voulais qu'il sorte rapidement, et pour provoquer un peu la vie, pour rencontrer des musiciens qui m'accompagneraient, et ça s'est fait en un mois, miraculeusement. J'ai rencontré un musicien iranien qui s'appelle Farshad, qui participe à un superbe trio qui s'appelle Soltani, en terre provençale, donc de la poésie particulièrement iranienne, parce qu'ils sont pas persanes, ils sont iraniens. Et j'ai rencontré un extraordinaire guitariste qui s'appelle François Garcia, qui actuellement joue avec des musiciens de Bachung. Et donc ces gens m'accompagnent et je lis avec François, je discute des textes autour du voyage. Non, je ne peux pas vraiment dire ça. Je lis des textes différents. Qui sont des échos de voyage et des échos d'un vécu intérieur. En fait, il y a vraiment, quand on. Je pense que quand on me lit et qu'on rentre dans ce que j'écris, on sent qu'il n'y a plus de séparation entre le dehors géographique et et l'intérêt de l'autre monde.
C'est aussi en vous écoutant, c'est aussi l'une de mes interrogations, c'est l'effacement de la frontière à la fois entre la vie et le voyage, et entre le voyage et la poésie. J'ai l'impression, alors je sais pas, je soumets ça à votre réflexion, mais est-ce que justement la poésie, c'est pas la quintessence même du voyage, c'est-à-dire cette ouverture vers là où on ne sait pas où on allait?
Alors, moi je pense que tout homme est un poète, mais on recouvre tous ces petits flocons de neige, de mots et tous ces pétales de fleurs, on les recouvre avec des certitudes, des « il faut faire, il n'y a qu'à » et ceci et cela. Et à ce moment-là, voilà, on s'éloigne de cette sensibilité extrême qui est une sensibilité intuitive. En fait. Mais la poésie, elle est consubstantielle à notre nature. Quand on ressent la profondeur de l'être humain et la magie de la collision dans l'instant présent, de la rencontre avec ce qu'on appelle communément l'altérité, un autre, ou que ce soit un paysage ou autre, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une alchimie, et chez certains êtres, on a envie de transformer cette aperception, c'est pas le mot perception, mais cette aperception, où l'autre n'est pas autre, on a envie de la... En tout cas, moi, c'est un peu ce qui se passe chez moi. J'ai envie de mettre des mots, faire un film avec, faire un spectacle avec.
Dans ce que tu dis, on sent l'importance de l'espace, de laisser de la place. Et justement, le titre, Géographie, mon amour, il y a tout de même cette idée d'un espace à conquérir, peut-être, ou à reconquérir à travers la poésie.
Alors, cet espace, il est déjà là, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit dévoilé. Et quand il est dévoilé à l'intérieur de l'être humain, quelle que soit l'expérience qu'on vit, on peut être couché, et donc de la viande, en relation avec des gens qui viennent du fait de la viande, ou on peut être voyageur, mais qu'importe. Mais on peut sentir cet espace vibrant, et après, qui le traduit en mots, qui n'a pas non plus la capacité de... Moi il m'est arrivé plusieurs fois de sentir des prémices d'une poésie qui s'écrivait en moi suite à une collision avec un endroit. Là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en Pologne, où je suis allé marcher sur le long de la rivière Popa qui délimite un peu la Slovaquie de la Pologne. Et j'ai senti un moment qu'il y avait quelque chose qui naissait en moi, mais je n'avais pas les mots dans le moment. Et je l'ai porté un peu comme une femme, hein, mais comme quelque chose,
une gestation.
Et je sentais que c'était que de la sensation. Et à un moment donné, elle a apparu sur l'écran mental et j'ai commencé à pouvoir mettre des mots. Mais la plupart des mots ne correspondaient pas. Je sentais qu'il fallait. Non, c'était pas encore prêt. Ça a pris un certain temps. Puis à un moment donné, ça s'est écrit tout seul. Mais c'est tout un cheminement, en fait. C'est tout un voyage. La poésie, pour venir à nous, encore une fois, il faut qu'on soit un espace sensible, un pot de tambour, vraiment. Et après, ben oui, mais il faut aussi des mots, quoi. Tu dois avoir. S'exprimer en photo.
Mais c'est vraiment, l'impression que ça donne en vous écoutant. C'est de redonner à nous autres qui sommes handicapés de la plupart de nos sens, de nous redonner cette envie ou cette capacité ou cette attention justement à tous les autres sens qui nous font être présents, qui nous rendent vivants. J'ai l'impression que par vos mots, par votre expérience, peut-être justement par peut-être la cécité vous a permis d'être plus dans les autres sens. C'est peut-être quelque chose de naïf, mais en tout cas, c'est cette richesse sensorielle que vous vivez, vous arrivez justement à nous la transmettre. Est-ce que vous avez cette impression aussi de nous rendre moins handicapés?
Absolument pas du tout, et je m'en fous royalement. Vous faites ce que vous voulez
de nos sens.
De ce que j'exprime, en tout cas moi.
Ouais.
J'ai pas un projet de transformer les autres. J'ai rien à donner, j'ai rien à. J'ai pas à expliquer aux autres qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela. Mais si vous voulez, déjà on parlait des outils sensoriels. Le premier c'est le corps. La plupart des gens n'ont pas accès à leur corps. C'est zarbine, hein, ce que je dis. Parce qu'en fait le corps, quand on est dedans, moi ça je l'ai appris dans mes voyages, au contact de certaines personnes, population, un peu en Europe, mais très peu, les gens sont dans l'information, même sur eux-mêmes, ils sont dans une émotion, dans la vie. Mais le corps, c'est un outil prodigieux, c'est un tam-tam, c'est une peau qui vit, qui ressent l'autre. Et puis, la poésie, en fait, c'est l'émerveillement. Si on n'est pas émerveillé, comment on écrit la poésie? Si on n'est pas émerveillé, on va donner des informations, on va dire qu'une fleur, elle a une tige, des pétales, des trucs, des machins. Voilà, c'est ça. La poésie, c'est l'émerveillement. Et traduire l'émerveillement en mots, des fois, c'est. Des fois, on va en mettre trop, des fois, voilà. Faut que ce soit juste. Après, moi, je sais que c'est juste, à peu près, en tout cas. Il y a un moment où je vais quitter la page et. Et je sais que j'ai pas à y revenir. Après, si je reviens 2 ans après, ça va plus vraiment. Voilà, je vais le lire, mais je peux pas juger. Ça a été une saisie du moment.
Et justement, est-ce qu'on peut entendre quelques-uns de ces mots? Est-ce qu'on parle de poésie? Est-ce que la poésie peut nous parler? Peut-être.
Ouais, je vais lire en braille, n'est-ce pas?
Ouais.
On sort.
Alors
ça.
Vous êtes venu avec le.
Mais de la poésie.
Ouais, on va
c'est
sentir,
tellement mieux.
On va sentir la poésie aussi, on va la goûter.
On veut goûter.
Je suis en train d'ouvrir le bouquin. Et tiens, le poète n'est ni dans le passé, ni dans l'histoire. Même la feuille morte sur un terrain vague le dit. Il a déréglé ses sens, effacé les miroirs, éteint flammes et enfers, et transport des paradis. Encore ?
Oh mais ça pourrait durer toute la soirée.
On peut continuer.
Encore un tout petit peu.
Ici, retrouvé, maudit, là, saint, génie, il a écrit sans le vouloir des mots de sel, d'espace et de granit, des mots élargissant notre soif à l'infini. Voilà, après, je pourrais vous embarquer, c'est un poème qui est venu en Éthiopie, où je parle d'Arthur Rimbaud.
Merci beaucoup. Jean-Pierre, on pourrait parler des heures, tout en poésie. On a bien compris que la poésie n'a aucun but, n'a aucun objectif. comme peut-être le voyage, c'est juste le plaisir.
Voilà. Oui, c'est comme la vie. Hein.
Comme la
les
vie.
Les gens demandent le sens de la vie. Le sens de la vie, pour moi, c'est la vie.
Voilà. La vie est son propre sens.
Merci.
Merci beaucoup,
Jean-Pierre.
Les deux radios et ce super festival, je vous encourage tous, en tout cas, à venir ici. Parce qu'en fait, on rencontre des gens qui ont vécu des expériences, mais je fais beaucoup de festivals depuis des années avec mes livres, Et mes filles, mais il y a une réelle fraternité ici. J'ai dit ça, je vais...
Merci beaucoup Jean-Pierre Brouillot. On va continuer d'une certaine manière en poésie, puisque en poésie des notes, en musique.
En musique ? Je suis pas en face de mon micro ou quoi ?
Merci. Hop.
Merci Jean-Pierre. C'est court.
Oui, mais c'est bien. Tu sais, des fois quand c'est court, c'est bon. Des fois, les mecs, quand c'est bien plus long, ils sont mal. C'est pas le moment pour dire ça. Mais...
Il est 7 heures. Mais on a commencé à 15. Ou 20 peut-être même. Je sais pas. Je pense qu'il reste, oui, un quart d'heure.
C'est tombé de son cahier, ça, non ?
Ah oui, pardon.
Vous avez
attends, t'avais ça ? Hop là. Merci d'avoir ramassé, hein, c'est sympa. Non, parce que c'était tombé et la jeune femme est venue ramasser les feuilles.
On est en direct ?
Enfin, 20, non, on est en faux direct parce que ça passera à 20h. Oui, à 20h sur fréquence 7. Bah, à tout à l'heure, on se voit tout à l'heure. Ah. Oh, ma glace, j'ai rêvé de ma glace cet après-midi.
Non, c'était
bon. Oh là là, c'est la tentation. Ok.
Antenne dans une minute. Une minute.
Trop drôle, tu me fais trop rire. La galopade. Ah, il s'appelle, ok. Bonjour.
Merci.
Oui, c'est ça, Hélène. Enchantée.
Bien, bien. Faut que je mette un casque, non ?
Eh oui.
Oui.
Il est là.
Celui-là ?
Oui.
Du coup, moi aussi, d'ailleurs. C'est toi qui lance ou c'est moi ?
Ouais, vas-y, j'y vais.
Hein ?
À parler assez près de la bonnette parce que Jean-Pierre était vachement loin.
Ouais.
Est-ce qu'il avait qu'on captait la musique
Ouais. Ouais, 15 cm du truc.
Et pour terminer, on a notre dernier invité qui vient avec une application pour générer son voyage. On avait promis de se muscler un peu les mollets afin de terminer en beauté cette soirée. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Xavier, Fabien, Via, Epona. Et juste avant, alors on s'est musclé les mollets et puis on s'est entraîné aussi un petit peu avant pour le concert de ce soir à 22h puisqu'on a écouté Kaskanzi, morceau de Scottish Vampira Negra. Ça donne envie, une sorte de folk, du folk vampire quoi. Donc ce sera ce soir à la salle Grand Fond à 22h. Mais revenons donc pour se muscler les mollets avec, avec vous, Xavier, Fabien, qui venez, alors c'est tout nouveau, vous venez de lancer une application qui s'appelle Via Epona. Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est quoi Via Epona ?
Qu'est-ce
alors,
que
Via Epona, oui, c'est vrai que c'est tout nouveau, c'est sorti le 21 mars. Donc on est sur quelque chose de tout neuf, tout jeune, tout plein de possibilités encore. C'est une application qui génère des voyages à vélo sur mesure, en fonction de ses goûts, de ses envies, de ses limites aussi. Et donc, ouais, des mollets musclés c'est bien, mais il y en a pour tout le monde aussi. Vélo électrique qui nécessite moins de mollets, ça marche aussi.
Et donc c'est une initiative récente. Comment est venue l'idée de cette application ?
Alors on a fait, on pratique nous-mêmes pas mal le voyage à vélo. Et nos premiers voyages à vélo, c'était assez catastrophique. Si on n'est pas avec quelqu'un d'expérimenté, ça, on peut vite abandonner parce qu'il y a quelques erreurs à ne pas commettre. Et nous, au début, on les a commises. Là, le but de Via Epona, c'est vraiment de faire en sorte que les gens ne fassent pas ces erreurs et finalement juste aiment leur voyage.
Quel type d'erreur, par exemple ?
Eh ben, moi, mon premier voyage à vélo, j'avais pas de cuissard, j'ai mis 20 kg sur le dos. Donc, au bout d'une heure, j'avais les fesses qui bougeaient. Je suis parti un jour de cagnard avec 6 litres d'eau, parce que je me suis dit, comme ça, on est sûr, ça fait 6 kg, c'est beaucoup trop. L'eau, on en trouve facilement en fait en France. Hein. Dès qu'on a le vélo, en fait, on a une aura de sympathie qui se crée, où les gens, en fait, ils nous voient galérer, ils ouvrent la porte, ils disent ouais, je remplis la gourde, il n'y a pas de souci, machin. Donc, je pourrais continuer comme ça pendant une heure, mais voilà, il faut. C'est pas si compliqué à savoir, mais c'est des erreurs qui s'évitent facilement.
Alors, le principe de Via Epona, qu'est-ce que c'est ? Puisque vous nous dites, ouais, c'est une appli où on peut faire sa voix verte sur mesure. Concrètement, comment ça marche ?
Donc on commence par rentrer un point de départ, un point d'arrivée. On choisit la pratique vélo qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, si on est en vélo électrique, c'est un choix qu'on a, mais si on est en VTC gravel, pour passer sur des chemins de traverse, du gravier, de la terre battue, ça marche. Si on est plutôt sportif et qu'on fait du vélo de route, ça marche aussi. Ensuite, on choisit l'itinéraire, la trace qui nous convient le plus parmi trois alternatives. On découpe en jours. Selon le nombre de jours, bah, ça va modifier la difficulté parce que plus de jours, c'est plus facile par jour. Et après, on va personnaliser les points par lesquels on va passer. Donc, on va choisir son hébergement le soir pour chaque étape. L'application en référence, on a 275 000 points en tout qui sont référencés en France, environ 100 000 hébergements. Et ça va du gîte au camping, à l'hôtel. Voilà, on a vraiment pour toutes les pratiques et tous les goûts et tous les besoins. Et on peut aussi, nous on aime bien mettre en valeur le terroir par exemple, donc on peut tomber sur des petits producteurs qui sont aussi référencés, également bah, les événements comme le festival de Joyeuse et évidemment dans les écoles.
Oui, et d'ailleurs, vous êtes partenaire privilégié de notre web radio, d'Allô la planète, puisque vous correspondez tout à fait à ce qu'on recherche diffuser, le goût du voyage, mais en même temps un voyage éthique, un voyage qui a du sens. Donc c'est pas du tout pour rien si on a forgé ce partenariat ensemble. Puisque donc, est-ce que vous pourriez un peu détailler le lien avec notre web radio ?
Oui, absolument. Nous, le voyage, alors déjà, on veut que ça soit pratiqué d'une manière ouverte. Il y a plein de manières de pratiquer le voyage et il faut que chacun trouve chaussure à son pied, en fait. Effectivement, on a une approche éthique aussi dans notre pratique. Nous, comme je l'ai dit, on veut mettre en valeur les petits producteurs. C'est pour ça qu'on développe des partenariats un peu partout pour essayer de les mettre en avant, faire en sorte que l'accueil vélo se diffuse aussi. Et on a une approche aussi éthique de la donnée. Je ne sais pas si c'est une question que vous vouliez aborder tout à l'heure ou que j'en parle là.
Mais oui, oui, mais oui, bien sûr. Donc,
voilà, on a un modèle économique en fait qui n'est pas du tout quelque chose où on a besoin de créer un compte, où il y a de la pub ciblée, où il y a besoin de payer quoi que ce soit. Non, nous, le but, c'est que le voyage à vélo devienne accessible pour tout le monde.
Non, mais Xavier, vous n'avez rien compris à la vie ?
Ah bah oui, non, mais ouais, il faut maximiser son salaire tout le temps, machin. Pas du tout, nous, on ne pense pas à ça. Non, nous, on pense que plutôt, ça a plus de sens de travailler avec des partenaires qui sont très vite rentabilisés, puisque Un partenaire chez nous, il paye une centaine d'euros. Un cyclotouriste qui est attiré par là, en fait, on sait que le panier moyen du cyclotouriste est de 76 euros en moyenne, ce qui est à peu près le double du touriste classique. Un partenaire a intérêt à se rentabiliser très vite et nous, ça maximise le nombre de points qu'on référence pour accueillir les vélos aussi. Et également, nos utilisateurs nous fournissent des données, pas des données personnelles, mais des données sur les voyages qu'ils effectuent. On compare avec les voyages qu'ils ont générés. Et grâce à ça, on voit un delta entre s'il y a un contournement systématique sur un territoire.
Donc c'est vraiment basé sur le partage d'expérience. Depuis le projet que vous en avez décrit tout à l'heure, vous l'avez décrit comme partager l'expérience jusqu'à les utilisateurs qui peuvent agir ensemble.
Oui, alors ça aussi on a plusieurs angles par rapport à ça. Un utilisateur peut nous faire remonter un point d'intérêt s'il tombe sur un coup de cœur. Un petit producteur, c'est toujours ce qu'on met en avant. Il peut nous le faire remonter, nous on va l'intégrer avec plaisir dans l'application. On a aussi le fait de... On aime bien mettre cette image quand on présente l'application. On se met autour d'une table avec le groupe de copains avec qui on va partir, par exemple, autour d'un téléphone, d'une tablette, c'est une application. On génère tous ensemble le voyage autour de l'apéro et après on diffuse le voyage chacun et tout le monde après peut le télécharger, le partager, en faire une trace, machin, le commenter. On est vraiment dans cette logique-là de partage. Quoi.
De partage, et je reviens sur cette idée de données, parce qui est très très intéressante aussi, de données anonymisées, et qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et là aussi, le côté éthique de l'application prend en compte, certes, les producteurs, c'est-à-dire les acteurs locaux, évidemment les cyclistes, mais aussi ceux qui sont en capacité de modifier l'aménagement du territoire, c'est-à-dire les élus locaux. Comment ça marche?
Exactement. Alors pour ça, nous, comme j'ai commencé à le mentionner, on récupère des données sur les voyages générés, les voyages réellement effectués, on voit les deltas, ce qui nous donne des indications sur les aménagements. En fait.
On voit les deltas, c'est-à-dire... Oui. Expliquez-nous.
Oui. J'ai trop dit, donc maintenant... les deltas, c'est si tout le monde fait le même détour au même endroit sur un certain endroit sur le territoire, qui sont tous en profil sécurité, par exemple, on a un profil sécurité dans l'application, typiquement pour voyager avec des jeunes enfants, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème d'aménagement à cet endroit-là sur le territoire. Donc nous, on vient détecter ce genre de choses, on a un simulateur de voyage sur le territoire pour identifier les tronçons critiques, on couple ça avec une base de données d'accidentologie du ministère de l'Intérieur, et en couplant toutes ces données-là, effectivement, qui sont anonymisées, encore une fois, on ne peut pas tracer les utilisateurs, ça ne nous intéresse pas. Mais on veut utiliser finalement leur voyage pour étudier bien les territoires, faire des préconisations et apporter du conseil auprès des aménageurs pour faire de l'aide à la prise de décision pour que les investissements des territoires maximisent la cyclabilité des territoires.
Finalement, cette application et l'usage que vont en faire, on l'espère, le plus possible de cyclistes, peut-être avoir un réel impact sur, va permettre de transformer et de rendre les aménagements plus sécures, de continuer d'améliorer. Donc il y a une fonction en utilisant l'application, on participe à l'amélioration du réseau cyclable.
Absolument, c'est ça, c'est le but, c'est que les utilisateurs contribuent finalement, rien qu'en voyageant, ils contribuent au développement du voyage à vélo.
Mais c'est génial, moi je veux cette application.
Moi aussi, je l'avais aussi. Hein.
Donc on la veut, c'est gratuit, je ne sais pas si on l'a
en
dit
plus,
encore. Oui, tout à fait, c'est gratuit, encore une fois, pas besoin de créer de compte, pas de pub ciblée, pas de données personnelles, hein, je le répète, mais c'est important. Et ça se télécharge facilement sur les stores, les deux stores, que ce soit un Android ou un iOS, tout le monde va s'y retrouver.
Quel est votre profil qui fait que vous avez mis au point, donc on l'a dit, vous êtes certes cycliste, mais vous touchez de la donnée?
Ouais, c'est un peu mon métier de base. Donc moi j'ai une formation de physicien, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2015. Un physicien, c'est quelqu'un qui travaille sur des vastes ensembles de données plus ou moins complexes. Évidemment, je n'étais pas tout seul, j'étais dans une équipe. On travaille avec plein de métiers différents, mais ouais, mon métier de base, c'est de la data. Et pour un physicien, il s'avère que je développais du code sur des supercalculateurs et compagnie. Donc je suis très informaticien pour un physicien, ce qui fait que une application de cyclotourisme, c'est du code. Et c'est de la data en dessous qui est interrogée, les bases de données de points d'intérêt un peu partout en France. Donc tout ça, c'est assez cohérent et c'est quelque chose qui a pu bien lier mon profil de physicien et de cyclotouriste ensemble.
Finalement, du code que vous avez voulu rendre éthique.
Oui.
Au service de quelque chose qui a du sens pour vous en tant qu'utilisateur et puis le rendre accessible aux autres, j'imagine.
Le code lui-même ?
Non, pas le code. Parce que là, on entrerait dans des choses un peu obscures. Mais en tout cas, utiliser le code pour pouvoir à bon escient pour votre application.
Absolument. Le code, c'est un outil. Hein. On fait ce qu'on en veut. Il y a plein de choses. C'est un vaste débat dans lequel je suppose qu'on ne rentrera pas là tout de suite.
Pas ce soir.
Mais en tout cas, nous, on veut en faire quelque chose d'utile pour le public, d'utile pour la société, d'utile, en tout cas, bien modestement, parce qu'on est deux, hein, on est une petite boîte toute jeune. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, mais oui, c'est la direction qu'on a dit.
Et là, à un mois et demi, c'est ça, après le lancement, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a déjà des retours ?
Comment ça roule ?
Donc Via Ipona est sorti le 21 mars, et on s'est dit, si au 21 avril, donc un mois après le lancement, on a 1000 téléchargements, c'est dingue. Et en fait, on les a eu au bout de 3 semaines.
Génial.
On était refait et on ne s'attendait pas à ce que les gens répondent aussi favorablement à ce qu'on a fait pour eux finalement. Pour nous aussi, hein, nous aussi on l'utilise bien sûr parce qu'on voyage à vélo. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un réel besoin, il y a un réel engouement pour le voyage à vélo et on est content de contribuer à ça. Quoi.
Eh bien voilà, je pense que ça termine sur une note très positive de l'engouement et de l'attrait pour ce que vous faites.
Ouais, et du vélo, effectivement, des voyages à taille humaine et des voyages qui prennent leur temps. Merci beaucoup, Xavier, Fabien. Donc, on rappelle, Via Ipona, qu'on peut télécharger sur...
Toutes les plateformes.
Partout et facilement.
Voilà. Merci à vous deux.
Merci. Eh bien, cher Moussaïon, l'émission se termine.
Touche à sa fin, oui.
On va bientôt accoster. Merci, merci à toi, Hélène.
Merci beaucoup, Sophie.
Et on se retrouve demain pour une autre émission, une autre aventure, où on va encore faire de belles rencontres.
En direct de la Joyeuse Escale 2023.
Alors, cap pour demain.